Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou. Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
La pluridisciplinarité des sciences est plus que jamais déterminante de la bonne conduite des études archéologiques. La géoarchéologie, l'archéozoologie, la carpologie ou encore la palynologie sont des disciplines parmi d'autres qui fondent la qualité des résultats de la recherche archéologique. Toutes emploient des méthodes et des techniques physiques et chimiques appliquées à celles de l'archéologie et relèvent d'une discipline appelée l'archéométrie. C'est la troisième session des Pierres qui roulent de cette année sur le thème des pratiques de l'archéologie et on est sur Radio Campus Paris 93.9 et aujourd'hui on loge au Musée des Arts et Métiers. Alors quel rapport me direz-vous ? Bon déjà on est là pour parler de métier et le musée regorge d'instruments scientifiques en tout genre, utilisés aussi par les archéologues. Prenons le microscope par exemple, indispensable lorsqu'ils travaillent en laboratoire. Ici, au CNAM, on peut voir leurs évolutions du microscope composé de Mani, datant du milieu du XVIIIe siècle, au microscope électronique à transmission Siemens de 1973. N'oublions pas aussi la reconstitution du laboratoire d'Antoine Laurent de Lavoisier au deuxième étage du musée. Fondateur de la chimie moderne, donc qui prend tout son sens dans une émission sur l'archéologie au laboratoire. Et l'archéologie, du coup, dans tout ça, vous me direz. Eh bien, figurez-vous qu'elle est partout, même ici. C'est l'église de Saint-Martin-des-Champs qui apporte cette dimension. Dans les années 90, des fouilles importantes ont confirmé l'existence d'un sanctuaire funéraire de l'époque mérovingienne, dont une partie du mobilier, comme un sarcophage, est exposée dans le cœur de l'église actuelle, à quelques mètres du pendule de Léon Foucault. C'est pas le monop de Réaumur-Sébastopol, mais la méthodologie n'a pas changé. Pour discuter aujourd'hui avec nous de ces liens interdisciplinaires entre les sciences naturelles et l'archéologie, nous serons accompagnés par deux intervenantes complémentaires, toutes deux archéologues. Andrea Parès, d'abord, bonjour Andrea.
Bonjour.
Donc doctorante en archéobotanique à l'Université de Paris 1, au laboratoire ArsCan et laboratoire archéobotanique.
Oui.
Hélène Huisson, également, vous nous accompagnez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi doctorante, spécialiste du Proche-Orient à l'Université de Paris 4, à l'UMR, Orient et Méditerranée. Et en plus de ça, vous faites un Master 2 en conservation-restauration des biens culturels à Paris 1. L'archéométrie, bien qu'elle s'applique à la prospection, la fouille et l'analyse en laboratoire, c'est ce dernier point qui va nous intéresser à travers vos deux expériences propres. On va voir comment vous travaillez toutes les deux en fait, dans vos métiers respectifs. Pour agrémenter cette belle discussion, Hugo est avec nous. Bonjour Hugo.
Oui, je vais essayer de parler d'une sous-discipline, d'une discipline archéologique qui s'appelle l'archéozoologie.
Et Léa, bonjour Léa.
Bonjour.
Qui nous fera une petite chronique musicalisée autour de l'exposition E égale MC 215.
Exactement.
Qui a lieu actuellement au sein du musée, au premier étage, jusqu'au 19 avril. Alors, on va commencer donc cette émission autour de la question pourquoi on fait des liens en fait entre les sciences dures et l'archéologie. Donc l'historiographie nous apporte des réponses. Le 19e siècle déjà faisait des liens. Commencer à faire, à voir des liens se créer entre préhistoriens, botanistes, ethnologues qui travaillent de concert, comme Boucher de Perthes. Hein. Et puis, au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, on a pas mal de progrès scientifiques et techniques qui placent l'objet archéologique comme un élément de reconstitution des modes de vie. Alors Andrea, dans votre thèse, qui s'intitule donc Environnement et économie végétale au néo à céramique à Chypre, donc sur le site de Kirokitia.
Oui, voilà, c'est ça.
Vous faites une analyse en fait à partir de matériaux que vous récupérez. Et qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement ? D'éclairer les modes de vie des populations que vous étudiez ?
Voilà, c'est ça. Donc c'est de reconstituer l'économie végétale, c'est-à-dire l'économie de subsistance, l'agriculture, les pratiques agraires, telles que la récolte, le décorticage, le battage, le stockage également dans les espaces d'habitat. On va essayer aussi de s'intéresser à l'environnement, donc les changements climatiques qui ont pu avoir lieu au cours de l'occupation, les différences entre le milieu archéologique et actuel. D'essayer de comprendre les rituels également, l'artisanat.
Oui, donc ça touche à tout.
Ça touche à tout, effectivement.
Qui concerne la vie de l'homme à travers les âges. Donc voilà, les modes de production et les pratiques de vie des hommes.
Voilà, c'est ça.
Ça permet aussi, cette pluridisciplinarité, une meilleure conservation des objets. Donc, Hélène, vous travaillez, donc vous faites aussi une thèse, hein, vous êtes chercheuse, vous travaillez sur l'architecture et le symbolisme néolithique à céramique également, sur les bâtiments exceptionnels au Proche-Orient. Vous avez fait plusieurs fouilles également, mais surtout vous êtes aussi en train de devenir une restauratrice confirmée. D'ailleurs, l'année prochaine, vous allez faire un séminaire, si j'ai bien compris, sur ces questions-là.
Oui, c'est un projet de séminaire d'enseignement pour les doctorants de Paris 4 et peut-être de Paris 1, pour destiner aux doctorants en histoire de l'art et en archéologie, pour montrer en fait quel peut être l'apport de la conservation-restauration avec ses compétences spécifiques pour leur champ d'études.
Alors, quand vous dites conservation-restauration, du coup, c'est un seul métier ou c'est deux métiers ? C'est deux choses différentes ?
Alors, c'est un même métier. En fait, on parle traditionnellement de restaurateur, mais depuis déjà les années 80 et encore plus dans les années 90, on se définit comme des conservateurs-restaurateurs pour mettre au clair, en fait, les définitions et les objectifs du métier. C'est-à-dire qu'on œuvre tous pour la conservation des œuvres d'art, du mobilier archéologique, afin qu'ils puissent être étudiés, qu'ils puissent être mis en valeur et transmettre aux générations futures.
Et donc, quand vous dites restauration, est-ce que c'est la même chose que la reconstitution, par exemple ?
Alors non, c'est autre chose. En fait, on distingue plusieurs types d'interventions de conservation-restauration. Donc, ça va de la conservation préventive, c'est-à-dire préserver les objets pour éliminer au maximum les risques qui menacent leur conservation. On peut faire de la conservation curative, lorsque le danger d'altération est imminent, on va traiter le problème à la source pour éviter qu'il prenne des proportions plus importantes et qu'il détruise l'objet. Et la restauration, en fait, ça peut être du nettoyage, tout simplement. Ça peut être pour une meilleure lisibilité des objets, ça peut être pour une céramique, la remontée. Il y a tout un panel d'interventions qui sont mises dans l'objectif de la conservation et de l'étude du matériel.
D'accord. Et donc vous avez été amené aussi à travailler dans le cadre de la programmation d'exposition, hein, vous servez aussi à ça en tant que restauratrice. Donc c'était au Musée des Offices à Florence ?
Oui, tout à fait. Alors on est aussi souvent amené pour dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine, que ce soit archéologique ou pour l'histoire de l'art, à participer à la mise en place d'expositions pour optimiser la conservation lors du temps d'exposition, pour les vitrines, pour justement le nettoyage, pour la disposition, les éclairages. Ça fait partie aussi de la conservation préventive.
Ok. Et Andrea, vous avez fait aussi, vous, dans le cadre de votre travail, des ateliers de médiation, par exemple ?
Oui, alors c'était pour les fêtes de la science.
Ouais.
Pour les fêtes de la science, donc on organise des portes ouvertes au muséum, dans notre laboratoire, et des ateliers autour de l'archéobotanique, l'archéozoologie, avec des faux bacs à sable où on va inviter les enfants à fouiller, à retrouver des graines, des os, et expliquer qu'est-ce qu'on peut retrouver, quel type de reste carbonisé, minéralisé, voilà. C'est souvent, ils sont très étonnés, justement, le grand public est très étonné.
De voir qu'il n'y a pas que des, que des ossements ou des pots de céramique, quoi.
C'est ça.
blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide. To keep me alive, just keep me alive. Somewhere to hide, to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems, so we can be free. I'm not a hero, I'm not the savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control. Beyond my control. Beyond my control. I need control. Beyond my control.
On est de retour sur Radio Campus 93.9 pour les pierres qui roulent sur l'archéologie au laboratoire. On va parler maintenant de vos supports de travail à toutes les deux. Quels sont les matériaux sur lesquels vous travaillez et quelles sont les disciplines du coup concernées sur ces matériaux? Alors Andrea, tu m'avais dit un jour qu'il y avait deux types de matériaux, des matériaux organiques et non organiques. C'est quoi la différence? Ouais.
Donc nous on s'intéresse aux matériaux organiques, c'est-à-dire créés par des êtres vivants. Donc c'est principalement les animaux, les plantes ou les micro-organismes. Donc ils intègrent un cycle de décomposition plus ou moins lent, par exemple je pense aux os ou au pollen, à la paroi des pollens, et parfois très rapide, donc pour les grains, les fruits, les bois. Donc pour qu'ils se conservent à travers des centaines d'années, voire des millénaires, faut des conditions de conservation soit exceptionnelles, donc on parle de restes imbibés par exemple sous l'eau, ou dans des milieux très arides, très secs, en fait, où il y aura une putréfaction inexistante. Sinon, la majeure partie des exemples, ça va être par la carbonisation ou la minéralisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une substitution de matière organique par du carbone ou des substances minérales.
D'accord. Donc ça, c'est pour les matériaux organiques. Et donc, les matériaux non organiques, ce serait la pierre, la céramique?
Oui, bah, tout ce qui est métal, minéral.
Ok. Donc, voilà. Toi, tu récupères quoi, par exemple? Donc, des graines?
Oui, alors donc les matières organiques, c'est très très vaste. Hein, ça peut aller du coquillage à la dent, l'otolithe, les os, les tissus en matière végétale, donc les graines. Mm-hmm. Moi, j'étudie donc les graines, les macro-restes végétaux.
D'accord.
C'est le domaine de la carpologie.
Ouais.
Après, il y a le domaine qui étudie les pollens.
Ouais.
C'est la palynologie.
Ouais.
Il étudie également les spores. Il y a également les restes de bois. Donc les bois carbonisés, ça va être la discipline anthracologique.
D'accord.
Et les bois non carbonisés, la dendrologie par exemple, la xylologie.
D'accord.
Donc voilà.
Hélène, donc toi, tu as travaillé aussi sur des restes organiques, hein, pas que sur du non organique sur lesquels on reviendra tout à l'heure, pris dans de la corrosion, c'est ça?
Alors en fait, oui, comme vient de l'expliquer Andrea, l'état de conservation des matériaux dépend de la nature du sol lui-même. Et dans certains cas, en conservation-restauration en archéologie, on peut se retrouver en fait des matériaux organiques enfermés, enfin dont les restes en fait ont été minéralisés. Donc ils sont souvent, c'est surtout valable pour les objets en fer. On a des exemples assez courants et assez impressionnants de textiles, de cuir, de bois minéralisés dans les produits de corrosion. En fait, c'est une interaction qui a lieu au moment de la dégradation de la matière organique. D'accord. Et de la corrosion du métal en fait.
Quelles sont les spécificités du coup en restauration pour ce genre de matériaux?
Eh bien en fait l'essentiel c'est la documentation et l'interprétation, et pour ça le conservateur-restaurateur est grâce à son expérience et aux outils d'analyse à sa disposition, peut identifier et interpréter ces restes organiques qui sont minéralisés. Mais on en retrouve aussi, comme disait Andrea, en milieu gorgé d'eau.
Oui, c'est ça.
Là, c'est encore d'autres éléments.
Donc ça, c'est comment on fait avec des bois gorgés d'eau pour les mettre dans un musée et dans une vitrine?
Alors, pour les exposer, c'est tout un processus. En fait, là, c'est une intervention assez invasive.
Ouais.
Parce que si on veut les sécher...
Ça veut dire quoi, invasive?
Invasive, c'est-à-dire qu'on va fortement interagir avec la matière de l'objet lui-même. Parce que pour des bois gorgés d'eau, si on veut les faire sécher, on ne peut pas les laisser naturellement, sinon ils vont complètement s'effondrer, perdre leur forme et n'auront plus aucune information exploitable pour l'étude archéologique.
Ouais. Dommage.
Voilà. Pas l'objectif. Donc on peut les imprégner en fait de résine, dans un premier temps, des bains de résine qui va tapisser les parois du matériau. Mmh. Et ensuite, on peut les lyophiliser. Donc ça, c'était inspiré des expériences en agroalimentaire.
Ouais.
Donc c'est-à-dire congélation, puis sublimation pour...
Hugo, t'as une question?
Tu parlais du pollen tout à l'heure.
Oui.
À quoi ça ressemble le pollen dans l'état fossilisé? Où est-ce qu'on le trouve et à quoi ça ressemble?
D'accord. Donc les pollens, en fait, c'est l'unité de dispersion de la fleur. Donc c'est la gamète mâle, on peut dire, issue des étamines. Donc en fait, elle est dispersée par le vent naturellement un peu partout sur tous les sols. Donc dans les sols de tourbières, de boue, les zones humides, le pollen, il va rester en fait bien conservé. Donc c'est souvent dans ces zones-là qu'on va privilégier l'échantillonnage par carottage. Les pollens, à quoi ça ressemble? c'est tout petit, donc c'est de l'ordre du micromètre. On va utiliser des microscopes effectivement pour les observer. Nous, ce qu'on identifie en fait, ce qu'on étudie pour les reconnaître, c'est la paroi, l'ornementation de l'exine en fait, la paroi conservée du pollen. Donc elle a vraiment une ornementation très variable, très spécifique d'un taxon à l'autre en fait. Donc il va y avoir des crochets, des verrues, voilà, il y a plusieurs descriptions.
Donc à part l'archéobotanique, il y a aussi de l'archéozoologie.
Oui.
Hugo, c'est à toi. Hugo va nous faire une belle introduction.
Attention.
Sur l'archéozoologie.
Alors, je suis désolé parce que je vais devoir commencer ma chronique par littéralement détruire un mythe, ou du moins égratigner une de nos plus belles images d'Épinal. On a tous lu, évidemment, les excellentes bandes dessinées du Uderzo et Goscinny, et pour les moins chanceux, vu les mauvais films mettant en scène nos deux compagnons préférés, j'ai nommé Astérix et Obélix. À chaque fois, la toile de fond, qu'est-ce que c'est? Nous sommes au 5e siècle, avant Jésus-Christ, les compères passent la plupart de leur temps à infliger de douloureuses corrections aux pauvres Romains, à ripailler autour de grands banquets, et parfois aussi à chasser le fameux sanglier dont raffole Obélix. Vous avez remarqué d'ailleurs que leur terrain de jeu favori est toujours ces épaisses forêts gauloises. On a vraiment l'impression qu'il n'y a que ça. Eh bien, on sait aujourd'hui que ces stéréotypes sont faux. Historiquement. Je vous prie de m'excuser, mais depuis quelques années, les fouilles archéologiques sont en effet parvenues à démontrer que la Gaule contenait davantage de vastes bocages ras que de forêts giboyeuses. Par conséquent, vous imaginez qu'il devient difficile d'y dénicher quelques sangliers, animaux sauvages et forestiers.
Mais comment on est arrivé à ces conclusions-là, du coup?
Alors, plusieurs indices archéologiques. D'abord, la découverte de nombreux sites agricoles de l'époque, des cultures, puis la mise en évidence par des archéobotanistes du recul des arbres au profit de céréales et de pollen. Mais les témoins retrouvés dans d'anciens villages gaulois vont s'avérer encore plus déterminants. Il s'agit d'os. O-S. Je ne parle pas d'un fémur de Panoramix, mais de nombreux os d'animaux qui cohabitaient avec les hommes. Leur identification pourrait ainsi permettre de savoir quels animaux les Gaulois mangeaient réellement, ce qu'ils élevaient, domestiquaient, etc., etc. Et c'est là qu'entrent sur scène les archéozoologues. En étudiant ces restes d'animaux, ils en sont arrivés à la conclusion qu'ils appartiennent quasi exclusivement à des animaux d'élevage. Cochons, bœufs, moutons, etc. à 99%, pour simplement 1% de faune sauvage. Autant dire que le fameux sanglier d'Uderzo et Goscinny n'est qu'une merveilleuse invention.
Alors, explique-nous qui sont ces archéologues.
Alors, inutile de m'attarder sur l'étymologie du mot, c'est assez limpide. Archéologie dirigée vers les animaux et leur relation avec l'homme. Leur expertise, on vient de le voir, peut-être déterminant au-delà même du cassage de mythes de bandes dessinées. Ce n'est que très récemment, finalement, que les restes d'animaux retrouvés sur des sites archéologiques font l'objet d'études poussées. Aujourd'hui, l'archéozoologie rassemble beaucoup de chercheurs, plusieurs laboratoires spécialisés et apporte de plus en plus leur concours aux fouilles archéologiques. Plus précisément, leur rôle, c'est d'étudier les interactions entre l'homme et l'animal, qu'il soit sauvage ou domestique. Et ça, c'est très intéressant. Vous imaginez bien que pour déterminer les rapports que nos ancêtres entretenaient avec leurs animaux, est fondamental. Quelles bêtes ils élevaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme animaux de compagnie, qu'est-ce qu'ils chassaient, etc. Grande question aussi à laquelle se sont confrontés les archéozoologues, à quel moment est apparue la domestication? Aussi, comment l'homme se nourrissait-il, par exemple? Bon, vous voyez que les champs de recherche sont multiples et les problématiques très variées.
Mais alors du coup, comment est-ce qu'il s'y prend, l'archéozoologue, concrètement en fouille?
Alors là, les allers-retours entre le terrain et les laboratoires de biologie sont effectivement permanents. Déjà, ce que l'on retrouve en majorité sur le terrain, comme on vient de le voir, c'est évidemment les os, qui conservent de nombreuses informations, l'âge de l'abattage des animaux, leur sexe, mais aussi des informations isotopiques permettant notamment de connaître l'alimentation des animaux et sa variation au cours de l'histoire. Les os peuvent aussi être étudiés par la 3D, vous savez, pour faire des mesures, des identifications, des comparaisons, etc. Mais on peut encore aller plus loin et aller dénicher le sacro-saint ADN enfoui au fond de la bête. Enfin, du moins qu'il en reste. Et forcément, là, ça se complique. Mais ça vaut le coup, car l'ADN est aujourd'hui une machine incroyable à remonter le temps, en rendant l'animal beaucoup plus familier. Je disais que ça se complique dans ce cas-là, car le principal problème qu'on a avec les os, ou l'émail dentaire d'ailleurs, étudié aussi de par son incroyable solidité, c'est que l'ADN qu'il contient n'est pas toujours en très bon état, et c'est peu dire. Il se trouve souvent également en très très faible quantité. Mais lorsqu'on parvient à extraire un échantillon qui contient de l'ADN, là, bingo, direction le laboratoire. Et bon, par contre, ça devient dès lors très, très, très délicat. Il suffit d'une toute petite contamination et puis votre ADN de cochon gaulois est remplacé par celui d'une quelconque bactérie de votre chien, voire du vôtre. C'est pourquoi nos amis archéozoologues collaborent en général avec des laboratoires très spécialisés dans l'étude de l'ADN ancien. Cet ADN contenu dans l'échantillon arrive donc au laboratoire. Je vous passe les étapes de paillasse, centrifugation et autres PCR avant d'obtenir les fameux résultats. Il faut juste savoir que l'étude de l'ADN peut alors révéler le sexe de l'animal, bien sûr, mais aussi déterminer l'origine des espèces domestiques ou encore les migrations d'espèces sauvages.
Et donc, il y a des spécialités aujourd'hui en archéozoologie?
Oui, je vous en présente rapidement les trois principales. Il y a l'archéo-entomologie qui concerne les insectes et principalement les insectes du quaternaire. L'archéomalacologie qui s'occupe des mollusques qui ont été une grande source, il faut le savoir, alimentaire et de matières premières dans notre histoire. Et enfin, l'archéo-ichtyologie qui étudie les poissons un peu pour la même raison. Voilà, pour conclure, l'archéozoologie est une science très récente, certes, mais elle est en plein essor et de plus en plus sollicitée pour parler notamment de problèmes actuels comme la chute de la biodiversité. Évidemment, les hommes n'ont pas côtoyé les mêmes espèces au cours de leur histoire. Les archéologues peuvent donc étudier l'évolution de la diversité. Et étant donné l'explosion démographique moderne qui nous met fatalement en relation, en contact, plus ou moins invasif, auprès de toujours plus d'animaux, cette profession a devant elle un horizon radieux. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous apprendrons qu'Obélix n'a jamais eu pour animal de compagnie le bon vieux Idéfix, mais un chat, ou pire, un sanglier.
Ce serait bien, merci, merci Hugo. Mais du coup, tu parlais dans ta chronique d'études isotopiques, et Andrea, je pense que tu peux nous apporter des compléments d'informations.
Voilà, ce qu'on retrouve dans certains zones.
Ouais, c'est ça.
Oui, voilà. Alors normalement, moi, j'en fais pas du tout en archéobotanique, parce que ça nécessite donc une matière organique intacte, de bonne qualité, bien conservée et en grand nombre pour faire des prélèvements. Ouais. Donc ça va être surtout sur des dents, des os. ou des otolithes, par exemple.
C'est ce que tu disais.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça repose sur le principe que, vu qu'on travaille sur du vivant, il enregistre toutes les traces du milieu dans lequel l'être a grandi, en fait. Donc, sous forme de cernes, si on peut voir ça. Okay. Donc on va étudier l'environnement, cet environnement-là, grâce aux compositions isotopiques d'éléments chimiques. Donc, souvent, c'est de l'oxygène et du carbone.
Et donc, on décompose tout ça et on arrive.
Voilà, on peut reconnaître, par exemple, des ruptures dans la croissance dues à un climat, un changement climatique, un déplacement dans l'année de troupeaux. Voilà.
Ok.
Oui, il y a juste quelque chose que je n'ai pas très bien saisi. Tu es archéobotaniste.
Oui.
Et tu fais également de l'archéozoologie.
Non.
D'accord.
Non, par contre, effectivement.
Tu sais en quoi ça consiste au moins.
Oui, bien sûr, parce que en fait, effectivement, tu pointes le doigt sur l'interdisciplinarité, justement.
Voilà, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Les archéobotanistes, archéozoologistes travaillent ensemble en même temps? Comment ils se partagent les tâches?
Sur le même site, ça arrive. Par exemple, sur le site sur lequel je travaille, il y a eu 30 années de fouilles et 3 publications en archéozoologie, en archéoïchtiologie et en malacologie, et 3 publications aussi en archéobotanique. Donc en fait, c'est du matériel qui est prélevé effectivement sur place à partir des mêmes sédiments, des fois, et qui sont envoyés donc à différents laboratoires de recherche où des différents spécialistes vont étudier ces restes-là, ces vestiges-là. Alors, comme tu l'as bien dit, c'est des champs de recherche, par exemple, domestication, diffusion, tout ça, c'est des champs qu'on a en commun aussi avec l'archéobotanique. Et donc, c'est vraiment, on partage les mêmes thèmes de recherche.
Et Hélène, du coup, aussi, en tant qu'apprentie restauratrice, toi, tu as travaillé sur des restes de mammouth.
Oui, alors aussi, on peut être appelé sur le terrain pour effectuer des prélèvements ou en fait prévoir un conditionnement temporaire pour qu'il soit amené au laboratoire pour qu'on puisse ensuite l'examiner et l'étudier dans les meilleures conditions possibles pour la sauvegarde du matériau. Donc oui, c'est...
on travaille tous ensemble, c'est magnifique.
J'ai la chance de pouvoir intervenir sur des zones mammouth. C'était essentiellement du nettoyage et du remontage en fait pour qu'on puisse y soit.
C'était où? C'était à Changis.
Oui, c'était le mammouth de Changis-sur-Marne, qui était
le fameux
à l'INRAP de la Courneuve.
Ok. Et donc du coup, toi, dans ton travail, tu travailles plus sur effectivement du minéral ou du métal ou même de la céramique.
Oui, enfin dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de matériaux minéraux.
Beaucoup de types de matériaux. Alors comment par exemple tu travailles sur du métal oxydé?
Alors, c'est une question très complexe.
Ouais, alors donc juste dans les expériences que tu as eues.
En fait, l'essentiel, c'est de déterminer les objectifs de l'intervention.
Ok.
En fait, on va travailler de concert avec l'archéologue, pour déterminer les principales problématiques archéologiques, les informations dont il a besoin pour comprendre le site, pour participer à la compréhension, comme on disait en début d'émission, du mode de vie, etc.
Ouais.
Et donc, à partir de ce moment-là, on peut décider si on fait déjà une première expertise, un premier examen des objets, de leur état de conservation, du type d'information qu'on peut potentiellement recueillir pour les étudiants. Ils arrivent au laboratoire, alors là on fait une première, ce qu'on appelle un constat d'état, donc des observations visuelles, des microscopes. Pour le métal, énormément la radiographie X, c'est un instrument très très important, ce qui peut apporter beaucoup d'informations sur le mode de fabrication, sur les assemblages, sur les décors, sur l'état de dégradation du métal. Et à partir de là...
Ce qui est en dessous de la couche,
d'oxydation. Ce qui est non visible, ça permet avec différents réglages, en fait, d'aller au sein du matériau pour construire un projet éventuel d'intervention et voir si ça vaut la peine d'intervenir sur l'objet.
Ok. Et donc peut-être de l'exposer après si voilà, besoin. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'exposait pas les objets oxydés, parce que c'est un peu dommage de ne pas voir cette partie-là aussi.
Oui, il y a plusieurs degrés d'intervention. Si, dans le cas d'une exposition, c'est sûr qu'on a plus tendance à vouloir dégager tous les produits de corrosion pour rendre un objet lisible, qui soit proche de sa forme originelle. Mais ça peut, si c'est simplement pour étude, on peut dégager juste une partie de l'objet pour accéder à des informations qui n'auraient pas été vues par la radiographie ou autre méthode d'investigation.
Ok. Et tu as travaillé aussi à la Cité de la Céramique, à Sèvres.
Oui.
Et donc là, quelle problématique tu as rencontrée, par exemple, sur les objets sur lesquels... Parce que la reconstitution de céramique, tout le monde en a fait. On ajoute voilà. Des bouts, c'est du puzzle, quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques, quand même, quand on est spécialiste
Après, c'est dans la méthodologie, dans la méthode de travail. Les objectifs, ça reste donc surtout du nettoyage, du conditionnement, de faire régulièrement un état sanitaire des collections et éventuellement du remontage, parce que enfin, en l'occurrence, c'est de la gestion de masse de mobilier. Donc, c'est important de garder l'unité des objets. Et pour cela, c'est souvent du remontage. Après, pour les expositions, on est parfois amené à faire des comblements. Et ça c'est encore, ça correspond à des objectifs particuliers. Parce qu'il s'agit, par exemple, à Sèvres, d'objets d'art.
Ouais.
Donc, on n'aura pas la même conception de l'intervention,
là,
pas les mêmes objectifs pour un objet archéologique. C'est pas le même type d'information que l'on recherche.
Et parfois, il y a des objets qui sont mixtes aussi, ou des alliages aussi. De métal. Toi, tu as travaillé sur certaines choses.
Oui.
J'ai vu que tu avais travaillé dans le Val-de-Marne sur des chapelets.
Oui.
Tu peux nous expliquer spécifiquement cet exemple?
Alors oui, c'était un cimetière du 19e siècle.
Ouais.
Et donc, le chapelet était constitué d'une chaîne en alliage cuivreux et de perles en bois. Du bois, peut-être du buis. Hein.
Ok.
C'est peu, probablement. On n'a pas pu mener d'analyse spécifique. Mais... Et dans ce cas-là, c'est l'objectif, comme les conditions de conservation sont parfois contraires pour l'un ou pour l'autre des matériaux, on établit des priorités.
D'accord.
Donc ça se joue essentiellement sur le conditionnement, sur le nettoyage d'une partie des produits de corrosion pour rendre lisible par exemple la chaîne métallique. Mm-hmm. C'était une histoire de conditionnement essentiellement.
Ok. De retour sur Radio Campus Paris 93.9, toujours pour les pierres qui roulent. Alors, donc, on va passer à notre dernière partie sur vraiment quelles sont les pratiques que vous employez. Donc, on a quand même pas mal vu hein, dans les exemples que vous donniez, comment vous y preniez. Andrea, je voulais revenir justement sur des méthodologies plus spécifiques.
D'accord.
Notamment à partir d'un arbre, des restes de bois. Comment est-ce qu'on fait plus spécifiquement pour analyser voilà, enfin, quelles sont tes méthodes de réflexion quand tu es face à...
Donc pour les anthracologues, il y a plusieurs effectivement champs de recherche. Donc par exemple, les techniques d'acquisition de coupe du bois, les essences elles-mêmes fournissent des informations sur le couvert arboré, l'ouverture du paysage et le climat. Donc chaque taxon a une écologie connue, donc qu'on peut analyser, qu'on peut étudier. Sinon, le calibre aussi, ça fait l'objet d'une recherche actuellement. Le calibre du bois peut être analysé et on peut effectivement mettre en évidence des collectes plutôt de petites branches ou de gros troncs pour le bois de feu ou le bois de construction.
Ouais.
Certaines essences ont des propriétés de chauffe plus importantes que d'autres.
Ouais.
Et ça, c'est que l'anthracologie. Après, il y a d'autres champs de recherche liés à la carpologie.
Ouais.
Donc, la domestication.
On n'est pas tout seul. Hein. On est abusé, donc il y a pas mal de gens qui passent. Ça fait du bruit, mais c'est la vie.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Donc effectivement, c'est un autre champ de recherche.
Oui, mais à chaque fois, en archéobotanique, on se base sur la détermination, en fait, des taxons.
Ouais.
Donc, c'est notre objectif.
Ouais.
On va essayer de faire un lien entre ce qu'on voit, le vestige, et une plante.
D'accord.
Voilà. Donc, tout simplement. Donc, on va utiliser des outils de la botanique, en fait, moderne. Donc, des référentiels, des atlas de référence. On va utiliser des flores de la région sur laquelle on étudie. On va utiliser aussi des collections de référence, donc des collections de semences, de fruits ou de bois aussi.
D'accord.
Qu'on aura carbonisé par la suite. Donc tout ça, c'est des choses indispensables, des outils indispensables dont on a besoin, qu'on doit consulter lors de nos études.
Et à quel moment tu décides de t'arrêter dans l'analyse que tu as mis en place depuis l'acquisition jusqu'à la détermination? Est-ce que c'est ça qui arrête tes recherches et ton analyse?
Alors on essaye toujours d'analyser le maximum, en fait, tous les restes, les vestiges carpologiques qu'on a dans les échantillons, en prenant bien en compte qu'il y a un biais. Donc à chaque fois, les modes de conservation entraînent un biais dans la conservation. On va avoir moins de légumineuses, par exemple, pour la carbonisation. On ne va pas du tout avoir de feuilles ou de paille, par exemple. On va avoir des choses plutôt résistantes au feu.
Ouais.
Donc, les choses qu'on ne voit pas, ce n'est pas forcément...
qu'elles n'existaient pas.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien prendre ça en compte quand on détermine. Donc, on continue toujours au maximum nos analyses, sauf effectivement si on voit qu'il y a un échantillon qui est très très riche, on ne peut pas tout étudier, on voit qu'il est très homogène, on fait un sous-échantillonnage, ou si on voit par exemple qu'il y a dans un échantillon, il y a une seule et même espèce, et là on va s'arrêter plus tôt, en anthracologie, on va analyser qu'une cinquantaine de charbons.
Toi Hélène, quels sont les outils en fait que tu utilises et qu'est-ce que tu proposes, à quel point tu t'arrêtes en fait dans la réinterprétation de ce sur quoi tu travailles, dans la restauration, est-ce qu'elle est complète, partielle sur les objets?
Alors en fait, l'objectif, pour simplifier énormément, c'est d'en faire le minimum pour en savoir le maximum.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est le principe d'intervention minimale.
Oui.
Parce que, comme je disais plus tôt, chaque intervention va modifier la nature de l'objet et par conséquent, son éventuel potentiel informatif, en fait, pour l'étude par l'archéologue.
D'accord.
Donc, en fait, on s'arrête quand il y a un risque pour la conservation de l'objet ou souvent aussi c'est intéressant de ne pas trop intervenir pour l'objet pour le conserver pour des études ultérieures au cas où on aurait des techniques d'analyse plus poussées, une meilleure compréhension du contexte, de l'objet, du matériau lui-même, parce qu'il y a encore des matériaux qui sont en cours d'étude, qui ne sont pas encore bien connus. Enfin, il y a énormément de progrès par exemple dans la métallographie, les processus de corrosion. On essaye au maximum d'utiliser des produits qui sont compatibles avec les matériaux originaux, qui ne vont pas altérer sa nature même, et l'objectif est toujours de préserver au maximum l'intégrité physique du matériau.
Et moi, j'ai entendu parler aussi d'un mot particulier qui est celui de la dérestauration. C'est
oui.
quoi ?
Alors, la dérestauration, c'est un cas particulier qui, en fait, donc c'est de défaire d'anciennes restaurations. Mmh. Alors, c'est parce que la conservation-restauration est une discipline qui se renouvelle aussi constamment. C'est une discipline jeune.
Oui.
Et depuis les années 80, on a une définition assez différente des anciennes pratiques de restauration. Et donc, certaines méthodes anciennes utilisaient des matériaux non compatibles avec les objets.
D'accord.
Ou c'était aussi beaucoup d'interprétations qui étaient parfois fantaisistes. Enfin, on a des exemples. C'est une déontologie qui se discute.
Comme quoi, par exemple, de la colle UU.
c'est pas la pire.
Oui, bah, c'est des glue.
Après, on a eu des. Enfin, il y a des exemples. La fameuse collection Campana de vases grecs qui est très difficile à étudier,
ouais.
parce que par exemple, elle a été beaucoup très restaurée et il y a eu parfois des montages complètement fantaisistes en fait.
Ah, oui.
Et la dérestauration peut se faire dans la mesure où ça va pas altérer davantage l'objet, mm-hmm. parce que encore une fois, enfin, le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, faut pas non plus pousser à l'excès inverse. Et dans l'autre côté, les anciennes restaurations sont pas toujours. Enfin, il ne faut pas systématiquement envisager de dérestauration parce qu'elles font aussi partie intégrante de l'histoire de l'objet, de son histoire matérielle et de l'histoire des anciennes pratiques de restauration. Donc c'est encore un choix qui se discute en fonction des objectifs par rapport à un objet particulier. C'est chaque objet a sa spécificité selon l'objectif d'étude.
Andrea.
Et parfois c'est irréversible.
Ça arrive, donc aussi les objectifs. Maintenant, c'est d'intervenir avec des matériaux réversibles autant que possible.
Mmh.
Et dans le cas de matériaux irréversibles d'anciennes restaurations, là,
on peut rien faire.
Vaut mieux pas. Enfin, ça dépend des cas. Encore une fois, c'est toujours au cas par cas, mais c'est pas forcément intéressant. C'est pas forcément dans l'intérêt de l'objet et de l'objectif de sa conservation à long terme.
Et tout ça, toutes ces analyses-là, tu les fais au sein d'un musée, au sein d'un laboratoire ?
Alors, il y a des laboratoires. Là, on utilise des microscopes optiques.
Ouais.
On peut aussi utiliser, pour la caractérisation des matériaux, le microscope électronique à balayage ou d'autres méthodes d'analyse avec des besoins d'échantillonnage. On peut utiliser des moyens mécaniques tout simples comme le scalpel pour faire des sondages sur les objets.
Tu me parlais tout à l'heure, hors antenne, l'expérience de travail sur des mottes. Comment ça fonctionne ?
Alors, les prélèvements en mottes, c'est encore un cas particulier. En fait, c'est en quelque sorte amener une fraction du chantier de fouille au laboratoire.
Ouais.
Et c'est très intéressant à la fois pour l'archéologue et pour le conservateur-restaurateur parce que cela permet de prélever, en fait l'objectif est de prélever l'objet avec une partie du sédiment qui le supporte, de son contexte original, enfin d'enfouissement, pour l'amener au laboratoire et faire une micro-fouille en fait.
D'accord, et une fouille dans le labo. Ouais, en fait.
Exactement. Ouais. Et grâce à une méthodologie précise, sa capacité d'identification et de reconnaissance des matériaux, de leur degré d'altération, en connaissant les problématiques archéologiques, le conservateur-restaurateur est capable de retrouver un certain nombre d'informations et de pouvoir travailler avec l'archéologue pour une interprétation.
Et de prendre son temps aussi dans le cas de fouilles qui doivent aller plus vite parce qu'il faut construire un grand hôtel.
Ça permet vraiment
de
préserver les informations au maximum.
Ouais. Andrea, toi, tu travailles, bien sûr, tu travailles à l'université, mais tu es délocalisée au Muséum d'histoire naturelle.
C'est ça, exactement.
Comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que tu es là-bas ?
Donc, le Muséum d'histoire naturelle, c'est un lieu d'enseignement, de médiation culturelle, on le sait par les musées, mais aussi de recherche. Donc, il y a toute une série de bâtiments donc, qui ne sont pas visibles par le grand public, où sont logés des unités mixtes de recherche. Donc, moi, je fais partie d'une UMR qui travaille sur l'archéozoologie et l'archéobotanique.
D'où le lien entre les deux.
Voilà, exactement. Voilà. Et effectivement, on met un point d'honneur à solliciter justement les collaborations entre les deux disciplines.
D'accord.
Donc, à travers des équipes qui travaillent sur les mêmes aires géographiques, parfois les mêmes sites, et aussi aussi des thèmes transversaux, des thèmes de recherche transversaux, comme la domestication, la diffusion des espèces, les systèmes agro-pastoraux.
Ce dont tu parlais au début, effectivement.
Exactement.
Et tu disais tout à l'heure que tu travaillais à partir de collections que tu pouvais consulter. Est-ce que le muséum joue un rôle dans ce...
Exactement, oui.
Dans cette consultation.
Donc, on dispose de plateaux techniques dans lesquels on a des grandes paillasses, on a de l'espace pour manipuler donc des os ou des graines, etc. Mm-hmm. On peut consulter des collections de graines ou d'os de référence qui ont été collectées par des chercheurs depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Des bases de données de graines, quoi.
Exactement, c'est l'ostéothèque et la carpothèque. Ouais. On appelle ça maintenant séminothèque, des fois. Donc, le Muséum d'Histoire Naturelle dispose d'une des plus grandes carpothèques nationales. Mm-hmm. Donc, et on dispose également d'ouvrages de référence. Mm. Voilà. Après, on a besoin également d'outils, de matériel spécifique, donc des loupes binoculaires pour la carpologie, de microscopes optiques.
Toujours ces microscopes.
Voilà.
Très important.
Indispensable. Pour l'anthracologie, l'étude des charbons de bois ou des pollens et des spores. Mmh. Et on aura aussi à disposition un spectromètre de masse pour les archéozoologues qui veulent faire des analyses isotopiques, par exemple.
Ouais.
On aura également un four.
Alors ce four, parlons-en.
Ce four,
parlons-en. Il sert à quoi au sein du musée?
D'accord. Alors, ça peut paraître original, mais en fait, oui, en principe, on étudie les vestiges carbonisés et donc, de ce fait, les processus de carbonisation et les biais que ça entraîne. Quand on est confronté à des vestiges carbonisés qu'on ne peut pas reconnaître, ou des fruits totalement écrasés, mm-hmm. explosés, etc., on investigue aussi sur les phénomènes de carbonisation et les conséquences que ça a sur les vestiges organiques. Donc du coup, on va faire des expérimentations, on va tout simplement brûler
des pommes
selon un protocole bien défini, donc une température bien définie, une atmosphère bien définie, donc des fruits, ce qu'on veut, des grains, des charbons de bois.
Donc c'est de l'archéologie expérimentale au sein du laboratoire.
Voilà,
quoi.
Exactement.
Ok. Toi, Hélène, aussi, tu as fait de l'archéologie expérimentale, parce que donc toutes les disciplines se recoupent sur des costumes.
Oui, alors c'était une demande particulière pour la mise en valeur aussi du patrimoine, puisque ça fait partie intégrante de notre travail.
Ouais.
Et donc là, c'était reproduire en fait des éléments de boucles, de ceintures, de sacs d'époque mérovingienne.
Dans quel cadre, du coup? C'était
dans le cadre de la fête de Saint-Denis. Donc c'était un défilé où en fait les enfants étaient costumés.
Donc il a fallu reprendre des éléments existants et faire des moulages, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, super. Donc oui, on voit bien que toutes ces disciplines se mélangent. Tout se mélange ici aussi dans ce musée. On est parti avec Léa à la prise de son au sein du musée. On va vous en proposer un petit carnet sonore sur lequel Léa interviendra pour nous parler d'une exposition qui se déroule donc actuellement, comme je vous l'ai dit, au sein du musée. E égale MC 215. C'est parti.
Relativité, radioactivité, bosons, ADN, robotique, nanosciences, des découvertes scientifiques célèbres, très célèbres, qui ont ou auront à coup sûr des conséquences sur notre vie quotidienne. Mais a-t-on toujours bien conscience que derrière ces inventions, ces découvertes, se cachent des chercheurs, des hommes et des femmes, mais aussi des outils bien spécifiques dont ils se sont servis pour élaborer et tester leurs hypothèses? Christian Guémy, alias C215, artiste pochoiriste et portraitiste de son état, adepte du street art, lui ne l'oublie pas. Utilisant les peintures aérosols depuis 2005, il peint dans l'espace public parce qu'il croit fermement que la peinture dans la rue peut vraiment changer le monde. Lorsqu'il est invité par le physicien Jean-Luc Sida au CEA, comprendre le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, situé sur le plateau de Saclay, à 20 km au sud-ouest de Paris, C215 découvre une ville de béton planifiée par Auguste Perret et dédiée à la recherche scientifique, où travaillent chaque jour plus de 6000 personnes. Créé il y a presque 70 ans sous l'impulsion du général de Gaulle et de Frédéric Joliot, le centre de Saclay mène aujourd'hui des recherches fondamentales et appliquées sur des disciplines répondant aux enjeux de la société, énergie de demain, santé, matériaux, etc. Au départ mandaté pour réaliser une simple fresque dans les locaux de la direction, C215 se lance en fait dans une vaste exposition. Il peint sur les murs du centre, au pochoir, des portraits hauts en couleur de grands scientifiques et réutilise des objets emblématiques de la recherche et de l'histoire du laboratoire. Se lançant, selon ses propres mots, dans une archéologie du local, C215 donne une nouvelle vie aux vieux objets du laboratoire en leur conférant un supplément d'âme, de manière à instaurer un dialogue entre science et art. Depuis la fin du mois de janvier, C215 expose au Musée des Arts et Métiers, dont vous entendez actuellement l'ambiance sonore. Donc C215 expose une sélection de ces objets ainsi revivifiés. Ces peintures sur objets sont parfois drôles, poétiques ou émouvantes, mais elles sont assurément propices à raconter des histoires. Elles évoquent des hommes et des femmes qui ont fait progresser nos connaissances. Elles racontent les appareils, les expériences ou les mesures qu'ils ont réalisées dans les laboratoires. On y trouve par exemple un portrait de Rosalind Franklin, réalisé sur un projecteur pour photosynthèse, comme celui dont elle s'est servie pour produire des radiographies qui permirent de mettre en évidence la structure en double hélice de l'ADN. Le travail de Rosalind Franklin fut pourtant à peine mentionné lorsque, 4 ans après sa mort, les co-découvreurs de cette structure, James Watson et Francis Crick, reçurent le prix Nobel pour leur découverte. On trouve aussi dans cette exposition, par exemple, le grand portrait de Jean-Baptiste Charcot, réalisé sur une carte de l'Antarctique, dans laquelle il a mené nombre d'expéditions, et où les gouttes de peinture pulvérisées forment non seulement le visage de l'homme, mais sont aussi comme autant de petites îles qui auraient soudainement surgi le long des côtes du continent. Dans cette exposition, on trouve également, par exemple, l'évocation de Lise Meitner, dont les travaux ont permis de comprendre la fission atomique. Évocation à travers un portrait réalisé sur un des écrans en paraffine dont les étudiants se servaient pour étudier le ralentissement dans la matière des neutrons produits lors de la fission. La paraffine convenant bien, selon l'artiste, à la frêle silhouette de la scientifique. Les œuvres de C215 invitent à porter un regard neuf sur les scientifiques et leur quotidien dans les laboratoires et amènent à mieux rendre sensible leur présence, car peindre l'image d'un chercheur sur un objet, c'est un moyen de le révéler. Lorsque l'archéologue étudie les petits sillons laissés par l'empreinte du doigt du potier sur la céramique qu'il a façonnée, il rend sensible, lui aussi, l'homme qui fut autrefois présent. La démarche de dialogue entre science et art dans laquelle s'est engagé C215 n'est peut-être pas si loin de celle de l'archéologue qui fait dialoguer les disciplines pour mieux comprendre le passé. L'exposition de l'artiste C215, intitulée E égale MC215, est visible jusqu'au 19 avril.
Merci Léa pour cette présentation de cette belle exposition, donc jusqu'au 19 avril, tu l'as dit. Il nous reste quelques minutes pour des petites questions, si des questions vous viennent. Moi j'avais plus de questions justement sur ton expérience Hélène à Munich.
Oui.
Donc c'est un stage que tu as fait pendant 6 mois.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à tes expériences passées? Quelles sont les différences que tu as pu voir entre ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe ici en France?
Bah, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, le laboratoire fait partie en fait, en gros, de l'administration pour la conservation du patrimoine bavarois. Mmh. Et qu'il comprend aussi bien les conservateurs-restaurateurs que les chercheurs, archéologues, spécialistes. Donc il y avait une vraie, véritable collaboration avec l'archéologue, avec les questions qui se posaient. Là, c'était en l'occurrence un travail sur une sépulture.
Oui.
Et ça m'a apporté beaucoup, justement, dans l'intérêt de cette collaboration pour l'interprétation.
Oui.
Et sur les possibilités d'identification des fameux restes organiques minéralisés dont je vous ai parlé.
Oui.
Et en fait, de la précision grâce à un prélèvement en MOTS, de la précision avec laquelle on peut proposer des reconstitutions.
D'accord.
Grâce à une méthodologie précise, une certaine expérience dans l'identification des matériaux.
Donc des moyens humains et financiers peut-être, voilà, plus aboutis.
Oui, il y a ça aussi.
Ouais. Parce que c'est vrai que ces moyens financiers, hein, Andrea, en archéologie, sur le terrain, c'est très important, notamment quand on travaille en laboratoire, entre guillemets, c'est nécessaire et presque...
Justement, on n'a pas parlé du lien entre le terrain et le laboratoire.
Ouais.
Donc, effectivement, on fait toujours ce lien-là, nous, mm-hmm, puisqu'on doit prélever des vestiges sur place.
Oui.
Mais il appartient au chef du chantier de mener un partenariat avec les archéozoologues ou les archéobotanistes. Et ça dépend essentiellement du temps, mm-hmm, du financement.
Bah oui.
Et oui, du contexte de fouille qui doit être très bien connu. Mm. Donc effectivement, ça peut limiter les analyses. Encore une fois, ce sont des disciplines qui sont méconnues du grand public, mm-hmm, et qui sont aussi méconnues par les archéologues. Donc il y a encore des choses à faire là-dessus.
Mais pourquoi ? Parce
que médiation à faire,
éloigner peut-être des résultats qui...
Parce que déjà, c'est des vestiges qu'on ne voit pas,
ouais,
qui ne sont pas évidents à voir. Donc des grains, des structures de greniers carbonisés, ok, mm-hmm, on va prélever des grains, mais on ne va pas forcément mener un échantillonnage sur toute l'occupation et faire une analyse liée aux pratiques agraires, etc. etc. On ne va pas forcément savoir qu'il existe des carporestes, mm-hmm, ou des pollens présents dans les sédiments, et si on ne réalise pas de flottation, d'ailleurs, on ne pourra pas les voir. Donc souvent les études archéozoologiques sont le plus souvent menées parce,
ouais,
que les restes d'eau sont
là,
les voit,
ouais, ils sont là.
Donc
mais le reste, ouais, c'est moins détectable.
Voilà.
Hugo, tu avais une question?
Moi, j'ai deux questions de néophytes. C'est peut-être plus du coup destiné, ouais, à toi en archéologie des civilisations humaines. La première, c'est comment est-ce qu'on est alerté de nouvelles découvertes de vestiges archéologiques? La deuxième question, est-ce que ça, les découvertes tombent automatiquement dans le domaine public, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça?
C'est assez complexe, parce que je voudrais appuyer un peu ce que disait Andrea, c'est que c'est souvent des spécificités qui sont méconnues par les archéologues. Et ça peut être très intéressant d'amener, enfin, pour le conservateur-restaurateur, d'être sur le terrain, enfin, ce qui est parfois difficile en fonction des moyens disponibles pour la fouille. Enfin, on rejoint le même problème. Mais ça peut être intéressant parce que justement, au lieu de prélever tout le matériel et de chercher à tout prélever, à tout traiter, en fait, à intervenir de manière peut-être excessive sur la fouille, on peut éventuellement, en fait, en collaboration entre l'archéologue et le conservateur-restaurateur, essayer d'estimer selon le contexte, quel est le potentiel informatif, quels seraient les objets pertinents à prélever, à analyser.
Ce que je voulais dire, c'est comment on découvre ces vestiges-là? Est-ce que c'est le hasard de la pioche? Est-ce que c'est dans le cadre d'une construction, oui, d'un bâtiment,
alors,
etc.
Oui, alors en France, il y a deux types d'archéologie, l'archéologie préventive et l'archéologie programmée. Alors là, l'archéologie préventive, donc c'est difficile de prévoir sur quel type de vestiges on va tomber. Donc après, ça peut, en fonction des vestiges, enfin, pour parler de la découverte récente, la Réaumur-Sébastopol, on va faire appel à des anthropologues. Donc là, c'est assez aléatoire.
Oui, on va faire des sondages, en fait,
après,
des diagnostics, ouais, de terrain pour voir si ça vous...
Mais vous allez tout manger de mon émission de la prochaine fois.
Ah non, mais c'est
et
bien,
et
ça
en fait, on peut être informé comme ça au fur et à mesure. Et puis pour les fouilles programmées, là, c'est un objectif plus précis. Mm. Donc après, c'est aussi un petit milieu. Donc il y a parfois des appels d'offres pour intervenir sur un projet particulier. Ça marche aussi pas mal comme ça pour les laboratoires. Pour les SRA, c'est encore un autre système. Mais...
Tu reviendras, Hugo, pour la prochaine émission.
Avec plaisir. Ici, dans ce même cadre, j'aimerais bien.
Mais oui. Bon, on va conclure tranquillement. Merci à tous. Monde. L'archéologie, donc, c'est pas qu'un seul métier, hein. ces différentes manières de penser, différentes manières d'écrire, différentes manières de faire des recherches et de travailler. Il n'y a pas non plus que deux types d'archéologues, ceux qui sont sur le terrain et qui font des enquêtes et ceux qui sont dans leur laboratoire, dans leur bureau. Ce sont des formes complémentaires qui doivent être... tous les archéologues doivent être un peu des deux. Je rappelle donc les actualités à venir. Donc le 22 mars à 15h ici au musée, l'artiste C215 qui viendra signer dans le cadre de son exposition qui termine donc le 19 avril. Le même week-end, 21 et 22 mars, on aura des démonstrations en bas dans l'église de la Pendule de Foucault entre 12h et 17h, un bel endroit. Je vous invite à le visiter si vous ne le connaissez pas. Ce dimanche 15 mars au MAN, au musée d'archéologie nationale, il y a l'ouverture de l'exposition Les Dieux des Balkans. Allez voir également, elle s'annonce très belle. Et parce qu'on y parlera aussi de pluridisciplinarité, la troisième édition du Festival du film du Moyen-Âge aura lieu du 24 au 29 mars au cinéma Le Desperado autour des thèmes des femmes du Moyen-Âge, ce qui va bien aussi dans le mois de la femme. Je vous invite donc à consulter le site bobineetparchemin.fr. Je vous remercie encore à tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine.
Papa was a rolling stone. Hey, yeah. Wherever he laid his hat was home. Papa called himself a jackal. Tell me if that was good. Papa put a gun in the grave. Folks say Papa put dead bottles in his hand. Hey, mama. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. On you, tell me the truth. Mama looked over with tear and said, this was a long